Il était une fois le Verdon. Aujourd'hui, mon invité est Jean-Christian Michel de la Fédération de pêche 04. Alors Jean-Christian Michel, qu'est-ce que c'est que cette Fédération de pêche et qui êtes-vous ?
Eh bien, une fédération de pêche regroupe les pêcheurs. Donc, vous savez que les pêcheurs sont des usagers de la rivière, comme les autres usagers. Ils vont à la pêche pour s'amuser, pour attraper des poissons. Mais en plus, ces usagers ont une fonction de protection des milieux aquatiques. Donc, nous sommes des pêcheurs et des protecteurs des milieux aquatiques. Nous avons une double casquette. Et donc, pour ce qui me concerne, je suis président de ce qu'on appelle une société de pêche habituellement. Donc ça s'appelle, au sens propre, une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et de plus, je suis administrateur de la Fédération de pêche des Alpes d'Haute-Provence. Donc le Verdon est pour moi quelque chose de très important.
Une réalité fluide.
Fluide, fuyante, labile, difficile à cerner.
Etc. Alors ce Verdon aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut le définir ? Qu'est-ce que cette rivière ?
Alors le Verdon d'aujourd'hui, il est très difficile à cerner si on ne connaît pas l'histoire, parce que le Verdon, bien sûr, évoque pour nous un nom de rivière, une rivière de 170 km, près de 170 km. Par contre, cette rivière, au fil du XXe siècle, elle a été fortement artificialisée, puisque cinq grands barrages hydroélectriques sont apparus. Et donc ce que nous appelons aujourd'hui le Verdon, ce sont trois tronçons de rivière qui, au total, mesurent 90 km et 90 km de barrage.
Donc, et peut-être, oui. Est-ce que c'est une manière de raccourcir un petit peu la description de cette rivière ? Parce que, comme toutes les rivières, elle a une source, elle a des affluents, elle a aussi un confluent. Est-ce que,
oui, voilà. tout à fait. Donc, d'un point de vue strictement géographique, le Verdon prend sa source à plus de 2300 mètres d'altitude en amont d'Alos, dans le massif des Trois Évêchés. Donc c'est la rencontre de trois torrents impétueux qui descendent des montagnes, donc le Verdon, le Chadoulin et le Bouchier, donc qui vont se réunir et former cette rivière qui va être grossie au fil des kilomètres d'un certain nombre d'affluents. Alors je ne sais pas si on peut tous les énumérer, ça serait peut-être un peu fastidieux, mais bon, sur le Haut-Verdon, vous avez la Lance, la Chasse, et puis la magnifique Issole qui va se jeter dans le Verdon en amont de Saint-André-les-Alpes. Après, dans le Moyen-Verdon, donc en aval de Castellane, le deuxième tronçon de rivière qui lui fait 40 km et qui va nous mener aux Grandes Gorges, nous avons un petit ruisseau qui s'appelle le Pesquier, ensuite nous avons le Jabron, l'Artubie. Et après, sur le bas Verdon, nous allons avoir un affluent majeur qui s'appelle le Colostre, qui fait 40 km. Hein. Et puis, un autre petit ruisseau qui s'appelle le Mallory. Et enfin, juste à la confluence avec la Durance, donc le Verdon, pour parvenir là, à cet endroit-là, aura parcouru 180 km et se sera descendu de près de 2000 mètres d'altitude. Maintenant, à la confluence, nous sommes à 270 mètres d'altitude, je crois. À cet endroit-là, donc à sa rencontre avec la Durance, le Verdon va tomber sur un petit ruisseau que l'on appelle la Loine. Et la Loine en provençal, c'est ce que l'on appelle en français une lonne. Une lonne, c'est-à-dire une résurgence, un bras d'accompagnement d'une rivière. Et donc, qui est un vestige du fonctionnement naturel de nos rivières. Voilà.
Et donc cette rivière a une forte pente.
Tout à fait. Alors une très forte pente jusqu'à Colmar-les-Alpes. Après, elle va commencer à s'adoucir dans le moyen Verdon. Et sur le bas Verdon, elle va devenir de plus en plus calme, de plus en plus large. Bon, et tout au long de son parcours, vous doutez bien qu'elle aura traversé un certain nombre de reliefs caractéristiques. Si on parle des gorges du Verdon, ce n'est sans doute pas un hasard. Et j'insiste sur le pluriel, les gorges du Verdon. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pratiquement plus que les grandes gorges qui sont en aval de Castellane, qui commencent au pont de Carajuan et qui se terminent dans le lac de Sainte-Croix, qui ont une longueur d'une vingtaine de kilomètres. Mais par le passé, la rivière traversait donc deux gorges supplémentaires, en aval de Sainte-Croix, donc les gorges de Baudinard, et en amont d'Esparon, une seconde basse gorge. Aujourd'hui, il ne nous reste que les gorges du moyen Verdon. Voilà, le reste est accessible seulement en pédalo.
Peut-être il faut noter quand même qu'avant les barrages, eh bien, il y avait des clus qui pinçaient le lit de la rivière.
Tout à fait. Et ces clus donc, ont été à la fois quelque chose de très caractéristique pour le cours du Verdon, et c'est en même temps ce qui a scellé la transformation de cette rivière impétueuse et sauvage en rivière artificialisée. Parce que sans ces clus qui resserrent le cours de la rivière, on n'aurait pas pu édifier les barrages. Ces fameux barrages qui ont besoin de pouvoir être ancrés sur de la roche solide et stable. Donc, alors on pourrait évoquer peut-être un projet avorté qui nous donnerait une bonne idée de ce qu'a été la construction de ces barrages hydroélectriques. Vous connaissez cet endroit que l'on nomme en aval de Castellane Carajuan, le pont de Carajuan. Donc Carajuan, ça vient du provençal carigé, ça veut dire charrier. Charrier, pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où la rivière charriait beaucoup de rochers, de galets, pardon. Et bien à cet endroit, Carajuan, il y a une clue, un resserrement. Et c'est là qu'a été projeté le premier projet de construction de barrage hydroélectrique. Donc il devait y avoir un barrage à Carajuan, donc qui aurait noyé tout le moyen Verdon jusqu'à Brance, en aval de Castellane. Hein. Donc tout l'endroit, tout le parcours où il y a des campings aujourd'hui, ça serait sous l'eau normalement, si ce projet avait vu le jour. Et donc il devait y avoir un barrage à Carajuan qui aurait dû mener l'eau à travers des galeries en passant par le fameux couloir Sanson où on va se promener dans le moyen Verdon. Là. Tout ça aurait dû être un tunnel et ça aurait dû mener l'eau au Galetas, où il y aurait eu une usine qui aurait implanté la première usine hydroélectrique du Verdon. Ce projet, alors je pense qu'il faut dire, heureusement, on n'a pas vu le jour, sinon ce moyen Verdon, qui est aujourd'hui le fer de lance du tourisme dans notre département, serait quelque peu noyé.
Voilà, donc la vie, on dira l'histoire d'une rivière, c'est pas quelque chose de simple, en l'occurrence. Qui dit barrage, qui dit rivière, dit débit. Cette rivière, il y a beaucoup d'eau dedans ?
Oui, il y a beaucoup d'eau. Et puis, il faut surtout penser qu'il y a des gros besoins dans les départements voisins, que ce soit pour l'irrigation ou la production d'électricité. Les Alpes d'Haute-Provence ont toujours regorgé d'eau. Même si le régime était le régime pluvio-nivial faisait que il y avait des périodes de fortes crues, donc de forts débits au printemps et à l'automne. Le plus gros moment, le plus grand débit de l'année se trouvait au moment de la fonte des neiges. Hein. Et puis après, on avait un étiage estival, c'est-à-dire un moment de la saison où le débit était très bas, et ensuite un second étiage, un étiage hivernal, ce qui est moins commun, et où le débit était encore une fois très bas. Et donc l'idée n'a pas été longue à germer au début du siècle, de retenir cette eau pour produire de l'électricité et pour alimenter en eau pour alimenter la Provence en eau quand elle en manquait, c'est-à-dire en été, donc de retenir l'eau et de la stocker, de la lâcher progressivement pour produire de l'électricité.
Nous voilà devant toutes sortes de problématiques qu'il a fallu traiter dans le temps. Peut-être allons-nous faire une pause avec une chanson, avec un poème.
Oui, je pourrais peut-être vous évoquer la présence de cette rivière, de cette eau victorieuse et puissante qui apparaît aux yeux des pêcheurs, qui apparaît aux yeux des randonneurs, qui apparaît aux yeux des touristes, qui apparaît aux yeux de tout le monde, et qui est un peu ce en quoi nous, aujourd'hui, nous avons envie de nous ressourcer. Parce que c'est vrai que l'eau est une ressource au sens propre, une ressource en eau pour boire ou pour produire de l'électricité, mais elle est aussi ce en quoi l'être humain aime se délasser et se retrouver. Donc j'aimerais évoquer avec vous un poème qui a été écrit par René Char, qui s'appelle les premiers instants. Donc c'est un petit poème en prose qui me semble évoquer à merveille cette présence de l'eau. Nous regardions couler devant nous l'eau grandissante. Elle effaçait d'un coup la montagne, se chassant de ses flancs maternels. Ce n'était pas un torrent qui s'offrait à son destin, mais une bête ineffable dont nous devenions la parole et la substance. Elle nous tenait, amoureux, sur l'arc tout-puissant de son imagination. Quelle intervention eût pu nous contraindre ? La modicité quotidienne avait fui. Le sang jeté était rendu à sa chaleur. Adopté par l'ouvert, poncé jusqu'à l'invisible, nous étions une victoire qui ne prendrait jamais fin. Voilà, c'est cette image de la fusion avec les eaux victorieuses, des eaux originelles toujours présentes, que je pense nous devons regarder ce Verdon qui aujourd'hui n'est pas toujours aussi triomphant en période de débit réservé, quand les eaux sont au plus bas. Mais nous ne devons pas oublier la présence de ces eaux avant qu'on les domestique.
Et la vie qui est dedans.
Et la vie qui est dedans, tout à fait, parce que vous vous doutez bien que pour quelqu'un comme moi qui se préoccupe de la santé des milieux aquatiques, le Verdon est rempli de richesses. Donc il faut penser quand même qu'avant ces barrages, le Verdon était en connexion. Alors oui, on pourrait parler du premier barrage. Le tout premier barrage, en fait, ça a été le barrage qui alimentait le canal d'Aix, qui avait sa prise d'eau à Quinçon, je crois, en 1870. Et qui a été donc le premier barrage dans le Verdon. Et à partir de là, les poissons ont commencé à connaître de sérieuses entraves à leur migration. Mais il faut penser qu'avant ça, le Verdon communiquait avec la Durance communiquait avec le Rhône communiquait avec la mer, et dans le Verdon, on retrouvait des anguilles qui descendaient pondre dans la mer et qui remontaient faire leur cycle de vie dans le Verdon. Donc, de Castellane jusqu'à la mer Méditerranée, on pouvait circuler en passant par cette rivière. Donc la présence de l'anguille relève du souvenir. Il n'y en a plus, mais il y a une forte biodiversité dans le Verdon. Donc la reine du Verdon, vous vous en doutez bien, c'est notre chère truite fario. Donc c'est un poisson qui aime les eaux vives, oxygénées, rapides, et qui est chez elle dans le Verdon. Ensuite, nous avons un certain nombre de poissons qu'on appelle de poissons blancs, entre guillemets, mais qui sont moins prisés par les pêcheurs ou par leur rareté, mais qui sont tout aussi intéressants, comme les blajons, les barbeaux. Et puis nous avons un certain nombre de joyaux écologiques qui dont un poisson particulier, l'apron du Rhône, qui est un poisson en voie d'extinction. Il ne reste plus que 5 rivières en France et dans le monde donc, où ce poisson arrive à survivre. Et les gorges du Verdon sont un dernier endroit où on peut trouver l'apron. Donc voilà pour les plus ou moins dit rapidement pour les poissons.
Pourquoi l'apron du Rhône dans
parce,
le Verdon.
Parce qu'il est endémique au bassin du Rhône, voilà, tout à fait. Et donc voilà, pour la biodiversité piscicole, mais en termes d'invertébrés aussi, il y a un certain nombre d'invertébrés remarquables. Et les milieux aquatiques du Verdon, ce n'est pas que des poissons et des invertébrés d'eau vive, mais c'est aussi des oiseaux, des animaux, et tout un monde qui est en place et qui essaie de subsister en vivant avec les aménagements des hommes.
En dépit des aménagements des hommes.
Je ne vous le fais pas dire.
Alors, pour en revenir à cet aspect plus artificiel, enfin plus construit de la rivière, quelles sortes d'aménagements on trouve tout au long du Verdon? Il y a les barrages, bien sûr, mais il y a eu avant ça des digues.
Bien sûr, tout à fait. Voilà. Mais depuis toujours, la présence de l'homme a été importante au bord de cette rivière. Donc les digues servaient bien évidemment à protéger. On peut penser, nous sommes à Castellane aujourd'hui, donc on peut penser à la barricade de Castellane, mais on pourrait penser aussi à la grande digue qui se situe en aval du seuil de Gréoux-les-Bains. On pourrait penser à la plaine qui se situe en aval de Vinon-sur-Verdon, mais aussi en amont d'ailleurs, où toute une série d'endiguements, de barricades ont été faits au fil des temps pour protéger les biens des hommes contre les crues de la rivière, donc protéger les maisons, pour protéger les terres agricoles. Et le problème, c'est que tous ces endiguements, bien évidemment, ils coûtent très cher à réaliser, mais en plus, ils ont contraint le lit de la rivière, et une rivière qui ne peut pas dissiper son énergie sur les côtés va dissiper son énergie vers le fond, et donc ça va creuser le fond jusqu'à chasser totalement les galets du fond de la rivière et créer des déséquilibres physiques, donc risque d'effondrement des digues, mais aussi des déséquilibres écologiques, parce qu'une rivière dans laquelle il n'y a plus de galets, c'est une rivière qui fonctionne de moins en moins bien. Les galets ont une fonction d'épuration dans la qualité des eaux de la rivière. Elles sont aussi le lieu de vie des invertébrés, le lieu de reproduction des poissons, et aussi ce qui fait que la rivière a un visage doux ou agressif. Une rivière qui est pleine de galets, c'est une rivière très diversifiée et très accueillante pour l'habitat de la faune, alors que quand il n'y a plus de galets et que le lit s'est incisé, c'est-à-dire qu'il s'est encaissé, la rivière devient beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale et moins productrice de vie. Voilà. Et le visage du Verdon d'aujourd'hui, c'est un petit peu cela, quoi. C'est un Verdon qui a perdu ses galets petit à petit, pas seulement en fonction de par le fait de la présence de digues, surtout de par le fait que les galets sont retenus dans les grands barrages. Hein, nous aurons l'occasion d'en parler certainement. C'est surtout ça le problème du Verdon d'aujourd'hui. Mais pour revenir à votre question sur les aménagements des hommes, bien sûr, il faut parler des digues, mais il y a aussi quelque chose qui me paraît central. Moi, je suis un amoureux des ponts du Verdon. Quoi. De tout temps, les hommes ont eu des difficultés à franchir cette rivière. Et tout le long du cours du Verdon, on trouve des ponts dont l'architecture est remarquable. Hein. On a des ponts qui médiévaux, donc les ponts médiévaux chez nous ont la particularité de tous être appelés des ponts romains. Mais...
Ou des ponts de la Reine Jeanne.
Voilà, tout à fait. Il y en a un certain nombre qui ont la même architecture. On pense au pont du Roc, on en trouve dans le Haut-Verdon aussi, le pont de Tussé, un certain nombre de ponts qui ont l'échine pointue et qui enjambent le Verdon d'un seul bond. D'autres qui malheureusement ont été noyés sous la vallée des Salles. Le pont des Guines était particulièrement remarquable avec ses huit arches et ses becs pointus là, qui fendaient le courant. Le pont qui se trouve sous le lac d'Esparron était tout à fait superbe aussi avec ses trois arches là, qui lui était lié aux transhumances des moutons au siècle précédent. Et puis après on a tout un cortège de ponts modernes. Certains sont apparus qu'au début du siècle, quoi. Donc franchir le Verdon a toujours été quelque chose de périlleux,
oui, de difficile. Avant ça il y avait eu des guets, et les guets, voilà, un petit peu d'histoire par rapport à ces ponts ou de la Reine Jeanne ou d'époque romaine. C'était que la Reine Jeanne a aidé beaucoup à ce qu'on commence à construire des ponts en pierre là où on construisait des ponts en bois, et cela pour que les bergers transhumants qui devaient se jeter dans le Verdon avec leurs bêtes pour le passer en perdent moins.
D'accord, oui.
Voilà, mais comme ils viennent tous à la même époque, eh ben, ils ont tous la même allure.
D'accord, oui, tout à fait, oui.
Aussi le pont de Lirette.
Magnifique, voilà, du barrage de Castillon, oui, tout à fait. Oui. Voilà, c'est la même architecture, hein. D'accord. Et c'est vrai que moi, vraiment, quand on m'évoque le Verdon et que je pense à un pont, je pense à cette architecture qui est vraiment remarquable, quoi. On avait trouvé le moyen de franchir le Verdon sans toucher le Verdon, ce qui est assez remarquable, parce que on peut imaginer, vu la violence de cette rivière en période de crue, que chaque pile de pont était soumise à de fortes contraintes.
Mais hors cela, il y a aussi, peut-être moins agréable maintenant, puisque le Verdon est touristiquement utilisé, des aménagements des rives pour embarquer, des choses comme ça.
Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est surtout vrai sur le moyen Verdon. C'est vrai que le moyen Verdon est vraiment une problématique qui est très particulière. On assiste vraiment à une surfréquentation en été là, qui est difficilement compatible avec ce que ce secteur de Verdon peut tolérer, quoi. Donc oui, des aires d'embarquement pour pratiquer le rafting ont été créées, mais même sans ces aires d'embarquement, on assiste à du stationnement sauvage tout le long de la rivière, quoi. Et c'est vraiment très, très problématique, quoi.
Cela lui nuit.
Cela ne donne pas une belle image du Verdon non plus à ceux qui viennent le visiter, et cela tire malheureusement le développement économique de cette vallée vers le bas, vers un développement quantitatif au lieu d'un développement qualitatif comme nous l'aimerions tous, même si toutes les activités sont respectables.
Voilà, mais revenons à ce qui fait votre venue ici. On a aussi construit des choses qui sont des échelles à poissons.
Oui, tout à fait. Alors voilà, alors là, il faut que je vous dise un mot sur ce que...
Nous expliquer ce que c'est.
Voilà, à quoi ça sert et pourquoi. Les poissons, pour vivre, pour coloniser une rivière, ont besoin de se déplacer. Voilà, il n'y a pas que nous qui avons besoin d'autoroutes et de routes pour aller travailler et pour partir en vacances. Les poissons, pour accomplir leur cycle biologique, à chaque période de leur vie, ils ont besoin d'un habitat différent. Donc un alevin, un tout petit poisson, va avoir besoin de petits rochers pour se cacher. Et un gros poisson va avoir besoin de gros rochers, de forts débits, de beaucoup de nourriture pour se cacher. Un poisson, c'est comme un chien, si vous voulez. Il lui faut une niche pour laquelle il puisse s'abriter du mauvais temps. Et donc la raison d'être de la passe à poissons de Castellane vient du fait que la rivière est fortement artificialisée par les lâchers d'eau d'EDF. Donc un lâcher d'eau, ça fonctionne comment ? On retient l'eau pendant quelques temps et puis on l'expulse brutalement. Donc ça veut dire que le débit de la rivière, est, pour le dire précisément, voilà, en ce moment on a 1,5 mètre cube de débit, donc très peu d'eau, et puis quand on va faire un lâcher d'eau, ben on va passer à 13 mètres cubes seconde ou à 20 mètres cubes seconde, donc le débit de la rivière va être multiplié par plus de 10. Donc ça va changer la surface du lit mouillé de la rivière, et donc des parties de la rivière vont se trouver à sec. Et quand les poissons vont se reproduire à cet endroit où la rivière va être asséchée, ben vous doutez bien que les œufs qui vont être mis à sec plusieurs fois dans l'année, ben ils vont mourir. Et donc cette ils ne vont pas pouvoir se développer. Donc cette passe à poisson qui a été construite en amont de Castellane, elle vise à faire remonter les truites vers un tronçon de la rivière qui est court-circuité, c'est-à-dire dans lequel on n'envoie pas le débit principal qui est turbiné par l'usine. Donc c'est un petit bras de rivière qui est calme, dans lequel le débit va être constant et la hauteur d'eau homogène, et dans lequel la ponte des poissons on va pouvoir arriver à terme sans être mis à sec. Voilà. La raison d'être de cette passe à poisson, c'est principalement cela.
Mais ça veut dire que les barrages, quand même, font obstacle.
Oh là là, c'est plus que faire obstacle. Oui, les barrages sont la plus grosse cause de déclin des populations piscicoles sur les tronçons de rivières. Oui, ils font obstacle. Donc, mais il faut quand même voir que sur le Verdon, ce sont des barrages qui sont les. Je parle des grands aménagements hydroélectriques. On pourrait parler des seuils, c'est autre chose, hein, notre problématique. Mais les grands barrages, ils sont espacés à Castellane, par exemple, il y a 40 km. Sur le Bas-Verdon, il y a 15 km de rivière libre, donc sur 15 km ou sur 40 km, ça peut circuler. Par contre, les poissons, pour se reproduire, ont besoin d'une qualité de gravier, d'une granulométrie, d'une taille de gravier qui est très précise. Et tant qu'ils ne retrouvent pas cette bonne taille de gravier, ben, ils vont se déplacer pour la trouver. Et dès qu'il va y avoir un seuil, dès qu'il va y avoir un infranchissable, cela va remettre en cause leur possibilité à rejoindre ces zones de reproduction. Voilà.
C'est tellement riche et tellement complexe. D'où ma question. Alors le Verdon, est-ce que c'est encore une rivière naturelle ? Est-ce que c'est une rivière ? Qu'est-ce que c'est ?
Oui, c'est encore une rivière, mais c'est une rivière fortement artificialisée. Artificialisée par ses débits, donc les débits, la production d'électricité va inverser le cycle biologique des poissons, si vous voulez. Habituellement, pas inverser le cycle biologique des poissons, mais changer fortement le fonctionnement naturel de la rivière. Habituellement, en hiver, le Verdon est en étiage hivernal, donc sur le Haut-Verdon, pas beaucoup de débit. Donc. Par contre, ben, sur le moyen Verdon, vous savez que nous avons besoin d'électricité en hiver pour nous chauffer, pour nous éclairer. Et c'est à ce moment-là que l'on va lâcher beaucoup d'eau. Donc les poissons qui vont passer la période de l'année la plus délicate, l'hiver, vont être soumis à des contraintes encore plus fortes dans le moyen Verdon. Donc ça va, la rivière est moins habitable, moins accueillante, et donc ben, ça va faire diminuer les peuplements. Donc ça, c'est vrai pour toute rivière soumise à des lâchers d'eau. Mais en dépit du fait que cette rivière dont les débits sont artificialisés, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des peuplements sauvages dans la rivière. Donc les truites du Verdon sont des truites sauvages. Pendant des années, les pêcheurs dont je fais partie, pendant des décennies, nous avons essayé de lâcher des alevins, d'introduire, d'aleviner, en pensant que l'on aidait la nature. Et on s'est aperçu en fait que les alevins qui naissent dans la rivière, même s'ils sont peu nombreux, ils sont beaucoup plus résistants et beaucoup plus adaptés à leur milieu. Et que donc, une rivière qui est fortement artificialisée, même si les peuplements sont faibles, elles ont des peuplements qui sont dynamiques. Et donc, la rivière reste sauvage quant à la reproduction des poissons, si vous voulez. Par contre, ces poissons sont soumis à des fortes contraintes et le Verdon fonctionne beaucoup moins bien que par le passé. Si vous voulez, nous avons des points de repère sur le moyen Verdon, par exemple. On sait que de 1990 à 2010, les populations de truites ont baissé de 80%. Donc, on ne peut pas dire que ça fonctionne très bien. Mais très bonnes mesures ont été prises depuis quelques années, mesures qui, nous l'espérons, vont vont non seulement porter leurs fruits, mais en plus être radicalisés. Et nous espérons que les peuplements piscicoles du Verdon vont redevenir ce qu'ils étaient dans les années 90. Quoi. Parce qu'avant les années 90, le Verdon, c'était l'Eldorado des rivières de pêche à la truite de France. Hein. Je vous en dirai un mot peut-être un peu plus tard.
Voilà, là, nous approchons de la fin de notre première mission, puisqu'il va y en avoir deux. Et peut-être... est-ce que, à vous entendre, je comprends mieux votre souci de savoir ce qui se passait avant, ce qu'était le Verdon avant. Et vous pouvez nous dire un peu comment vous réfléchissez au Verdon en conjuguant hier, aujourd'hui et demain ?
Tout à fait, voilà. Bon, mais le Verdon est une rivière artificialisée aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est de voir comment on peut parvenir à faire fonctionner de façon à peu près naturelle une rivière qui est de part en part artificielle. Donc, pourquoi m'intéresser au Verdon d'hier ? C'est vrai que dans cette vallée, depuis un demi-siècle, on parle beaucoup de barrages, mais on n'a pas trop de mémoire de ce qu'était la rivière vivante, ce à quoi elle ressemblait. Donc, alors, depuis, un certain nombre d'études ont été faites. Et moi, je vous parlais de façon assez elliptique tout à l'heure des graviers qui étaient dans le Verdon. Là, une étude a été rendue en début d'année qui est très intéressante sur ce qu'on appelle le transport solide, c'est-à-dire la façon dont la rivière charrie des rochers, des galets. Eh bien, on sait qu'en 100 ans, dans le moyen Verdon et dans le bas Verdon, les barrages, donc les grands barrages hydroélectriques, ont fait baisser, en retenant donc les galets en queue de retenue des lacs, ont fait baisser le niveau des rivières de 2 mètres à 5 mètres. Donc aujourd'hui, le Verdon tel que vous le voyez à Castellane, au début du siècle, peut-être qu'il y avait 2 mètres, 3 mètres ou 4 mètres de galets en plus. À Gréoux-les-Bains, en aval du fameux seuil, on a une baisse de 5 ou 6 mètres. Sous le pont de Vinon, que vous connaissez peut-être, actuellement, il y a un très grand trou. Il y a une marche d'escalier de 2 mètres, une cascade de 2 mètres. Et puis sous cette cascade, il y a un trou qui est profond de 2 mètres 50 à 3 mètres. Donc ça fait un creux de 5 mètres. Et bien au début du siècle, nous avons des cartes postales qui nous montrent que l'aval du pont était exactement au même niveau que le pont. Donc ça nous donne un peu une idée des galets qui ont disparu de cette rivière et des changements morphologiques qu'ont connu cette rivière, et changements morphologiques qui impliquent donc un changement de milieu de vie pour les espèces, et donc des milieux plus contraints et plus difficiles à habiter et plus pauvres, tout simplement, pour le dire.
Voilà, et ben, qui va nous servir de conclusion pour cette première émission. Un petit peu de musique pour la terminer. L'eau vive, vous connaissez tous, mais on l'écoutera avec plaisir encore une fois. À bientôt.